Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, le philosophe pressenti pour être tête de liste LR aux européennes François-Xavier Bellamy, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann et le directeur du think tank Terra Nova Thierry Pech. Au sommaire de ce dimanche 13 janvier, crise politique hexagonale semaine 9, débat sur le débat, le maintien de l'ordre en République et la défiance qui s'aggrave. Et puis tandis que Marine Le Pen réunit ce dimanche ses troupes en vue du scrutin européen, nous reviendrons aussi sur le tour d'Europe du ministre italien Matteo Salvini. « 84 000 personnes hier encore dans toute la France, soit 30 000 de plus que la semaine précédente. Mobilisation en hausse, violence en baisse. Un pays, la France, où 32% des citoyens disaient désormais éprouver du dégoût quand on leur parlait de politique. 37% de la méfiance, 9% de l'intérêt et 5% seulement de l'espoir. Tels étaient les chiffres d'une grande enquête du CEVIPOF publiée ces derniers jours. Un tsunami de défiance qu'il fallait analyser à la loupe. Tandis qu'en cette semaine 9 du mouvement des Gilets jaunes, on n'avait plus que jamais la perception violente d'un schisme national qui s'aggravait et de digues qui lâchaient. De cet ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, appelant à tirer sur les gilets jaunes, à ce concours de cagnotte en ligne, près de 120 000 euros récoltés pour Christophe Détinger, celui qui avait boxé des gendarmes mobiles le week-end précédent. Des chiffres faramineux, également énoncés pour une contre-cagnotte, celle organisée par Renaud Muselier, en soutien aux forces de l'ordre, sur fond de rumeurs de trucage. Surenchère de vidéos en ligne également, pour confronter les violences, celles des forces de l'ordre et celles des casseurs, sur fond de mesures gouvernementales rendant délictueux le fait de porter une cagoule et mettant en place un fichier des manifestants, surenchère de menaces sur les élus, menaces de mort par exemple sur le député noir Jean-François Mbaye, surenchère de pages Facebook, celles des foulards rouges essayant désormais de contrebalancer celles des gilets jaunes avec une marche républicaine prévue le 27 janvier prochain. France coupée en deux, que plus rien ne semblait pouvoir apaiser. Et notamment pas, pour l'instant du moins, ce grand débat consultatif annoncé, pollué par les polémiques sur le salaire de Chantal Jouanneau chargée de l'organiser et le désengagement du vice-président de l'Association des maires de France, André Léniel, qui disait ne pas se sentir tenu d'y participer. Enfin, on était aussi tombé vendredi sur cette rencontre, très médiatisée, entre un ministre, Mounir Majoubi, qui avait accepté sur le plateau de Cyril Hanouna de vivre la vie pendant une journée de Céline, gilet jaune et auxiliaire de vie auprès de malades d'Alzheimer, laquelle irait ensuite passer une journée à Bercy. Vivre la vie de cet autre que l'on ne connaissait plus. Hanouna, le ministre et la gilet jaune, le titre d'une fable ou d'une parabole qui disait beaucoup d'une époque.
Ce soir, Céline ne changera pas de menu.
Une soupe chinoise qui coûte 70 centimes.
Un ministre à dîner à la maison, ça n'est pas tous les jours, alors ce sera un peu amélioré.
On va faire les courses. Donc comme ça, on va choisir ensemble.
Céline est gilet jaune depuis le début du mouvement, assistante de vie, 50 heures de travail par semaine et un crédit qui, à la fin du mois, ne lui laisse que 300 euros pour vivre.
Avec 300 euros, il faut que je mange pour le mois, que je paye mon essence. Éventuellement, je puisse acheter des vêtements pour ma fille.
Ces week-ends, depuis le 17 novembre, elle les a passés sur des ronds-points du Var. Mounir Majoubi, elle l'a rencontré sur un plateau télé en décembre et depuis, ils ont toujours gardé le contact.
Je ne pensais sincèrement pas qu'il allait venir. La grande chance que j'ai eue, c'est que Mounir a une façon de fonctionner et une humanité que peu de politiques ont.
Toute la journée, le ministre va l'accompagner auprès de ses patients. Ce soir, il rencontrera d'autres gilets jaunes. Céline veut notamment aborder la question du grand débat.
Ah mais bien évidemment que je vais y participer. C'est pas que j'ai envie, c'est que en fait j'attends ça avec impatience. Juste la première fois qu'on peut nous laisser la parole. Alors maintenant, la question se pose aussi, est-ce qu'on va être entendu réellement ?
François-Xavier Bellamy, Hanouna, le ministre et la gilet jaune, pour vous aussi, c'est une fable ou une parabole d'une époque ?
En tous les cas, c'est le signe que nous avons tellement besoin, effectivement, de recréer de la circulation à l'intérieur d'une société qui ne se connaît plus. Au fond, on vit, je pense, prenons un seul aspect de cette distance On vit par exemple depuis quelques décennies d'un urbanisme qui nous a physiquement séparés et qui fait que là où dans la ville haussmannienne par exemple les classes sociales dans leurs différences et leurs inégalités vivaient au même endroit, aujourd'hui elles ne se côtoient presque plus, elles ne se fréquentent presque plus, en tous les cas elles ne se connaissent plus. Et cette expérience dans ce qu'elle peut donner peut-être à sourire a en même temps sans doute valeur de symptôme de la nécessité de se retrouver de nouveau et de se découvrir de nouveau dans les difficultés réciproques qui peuvent être celles des uns ou des autres. Ce qui est certain, c'est que la question posée par les Gilets jaunes peut trouver des réponses, elle doit sans doute trouver des réponses immédiates en termes de pouvoir d'achat, en termes de mesures concrètes qui permettent de remédier à certaines urgences. Mais cette crise ne connaîtra de véritables réponses que sur le long terme, lorsque nous serons parvenus à repenser à travers nos institutions, à travers notre manière de construire nos cités, notre encore une fois, je reviens sur cette question qui me paraît décisive, à travers notre aménagement territorial et la manière dont nous organisons la subsidiarité, lorsque nous aurons pu retrouver une capacité de faire participer chacun à la décision collective et de faire en sorte que la distance qui s'est créée ne soit plus désormais une fracture.
Le long terme, dit François-Xavier Bellamy, Aurélie Filippetti, et en même temps, cette périodicité à laquelle nous sommes désormais confrontés et presque déjà habitués. Chaque samedi en France, désormais, c'est l'attente de ce que va être cette mobilisation des Gilets jaunes, dans l'attente aussi d'une réponse politique dont on sait ce qu'elle sera ces prochains jours, à savoir cette lettre d'Emmanuel Macron attendue pour demain dans les quotidiens, sur les réseaux sociaux, et puis le début de ce grand débat dans les mairies avec un déplacement du président de la République en Bretagne. Et en effet, on le sent, ce schisme entre le court terme et le long terme qu'on sent très bien et qu'analysait à l'instant François-Xavier Bellamy.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que, à travers l'exemple de ce ministre et cette femme gilet jaune, en fait, ce qu'on voit, c'est que, alors, ils ont besoin d'un plateau de télévision, celui de Cyril Hanouna, pour se rencontrer. Et ils ont besoin de mettre en scène cette rencontre pour donner l'illusion d'un dialogue possible. Mais enfin, on vit dans un monde, quand même, où il y a un abaissement du niveau du débat qui est terrifiant. Normalement, c'est la représentation politique qui doit permettre, justement, d'écouter, d'analyser, de diagnostiquer les problèmes d'une société, de faire remonter les besoins de l'ensemble des citoyens dans toute leur diversité. Et c'est aux élus, à différents niveaux, local, régional, national, européen, de transformer ces besoins, ces attentes en décisions politiques. Là, on transforme ça donc en une sorte de parodie de dialogue télévisuel ou numérique qui est en fait, mais un retour à ces politiques années zéro. C'est-à-dire qu'on revient en arrière sur 2500 ans d'histoire politique et de réflexion sur ce qu'est la démocratie, enfin depuis Athènes et les Grecs. Donc, à un moment donné, je crois qu'on est aussi victime, enfin en tout cas le gouvernement est aussi victime de cette illusion qu'a entretenue Emmanuel Macron pendant sa campagne et depuis son élection, du fait qu'il pouvait se passer de tout ce qui est tout ce que sont les corps intermédiaires dans la société, les syndicats d'un côté, les élus locaux, les maires, les parlementaires expérimentés, les partis politiques. Si on fait table rase de tout, eh bien à la fin, il ne reste que cette société du spectacle qui nous dévore.
En même temps, votre dernier livre, Aurélie Filippetti, j'étais sûre qu'elle allait vous plaire, cette anecdote d'Hanouna et de la ministre, parce que d'une certaine manière, vous en parlez déjà dans votre dernier livre, vous vous racontez déjà cette méfiance, cette défiance, cette impossibilité de parler qui existe entre ce qui incarne l'État républicain et le peuple des territoires, parce que vous racontez dans ce livre, vous racontiez dès septembre comment, lorsque vous allez vous retourner chez vous dans l'Est de la France, on vous reproche d'appartenir à un camp avec lequel on ne se sent plus en possibilité de parler.
Bien sûr, mais en même temps, ce n'est pas la dévoration spectaculaire, si j'ose dire, la dévoration par la société du spectacle qui va être, à mon sens, le véritable remède à ce décalage, à ce fossé entre ce qu'on peut appeler les élites et le peuple. Normalement, c'est aussi aux travaux, par exemple, des sociologues, de nourrir des économistes, des sciences sociales, etc., de nourrir la réflexion, le dialogue, avec évidemment des instances aussi de démocratie plus participative, mais qui doivent être organisées. Et en tout cas, ça ne se fait pas comme ça sur un plateau de télé. Bon, pardon, moi, j'ai l'impression parfois d'être... c'est des choses assez basiques, mais... Quand un ancien Premier ministre avait dit que finalement il n'avait pas besoin d'essayer de comprendre les causes ou de trouver des explications à certains comportements, je pense qu'à force de nier ce que peuvent apporter par exemple les sciences sociales à la réflexion politique, eh bien on tombe sur Cyril Hanouna.
Alors chercher les causes profondes et le faire réellement en regardant par exemple l'intégralité de ce baromètre annuel Cevipof qui est paru cette semaine, qui a été beaucoup commenté. Tout le monde est notamment beaucoup revenu sur un mot, le dégoût, et ce chiffre, plus de 30% des Français sèchent et qui la politique suscite aujourd'hui ce sentiment-là, à savoir celui du dégoût. Thierry Pech, vous avez lu l'intégralité de ce baromètre. Il est intéressant parce qu'on y trouve aussi autre chose. On est là réellement dans les causes profondes, à la fois de ce qui arrive, mais avec quand même quelques vagues lueurs d'espoir sur comment on en sort.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, la communication sur ce baromètre s'est beaucoup arrêtée, et à juste titre, parce que c'est un des enseignements de cette enquête, sur la progression de la défiance, qui atteint des niveaux historiques depuis 10 ans, parce que ce baromètre est fait depuis 10 ans, donc on peut le suivre en assez longue période désormais. Tout le monde plonge, à part les maires, et les maires, leur tour ne tardera pas. C'est beaucoup lié à des circonstances, à mon avis, assez conjoncturelles. Donc, ça, ok, c'est ce que vous avez dit, le dégoût progresse, les mots qui caractérisent l'état d'esprit de l'époque sont ceux de lassitude, de morosité, de méfiance, de dégoût, etc. Mais il y a aussi toute autre chose dans cette enquête qui a été peu commentée et qui est presque le plus important. C'est-à-dire que ce qui ressort de cette enquête, c'est une formidable demande de démocratie, demande de renouvellement démocratique. Et je crois que c'est ce sur quoi il faut insister. Quand vous demandez aux gens quel est le meilleur système politique, ils ne disent pas, contrairement à ce qu'on pouvait redouter il y a quelques années, parce qu'on voyait monter l'idée qu'il nous faudrait un homme fort, qu'il faudrait un régime plus autoritaire, une espèce de épistocratie. À chaque semaine, vous avez remarqué, Émilie, ces temps-ci, il y a un mot de cuistre qui revient. La semaine dernière, c'était oclocratie. Cette semaine, c'est l'épistocratie, c'est-à-dire le despotisme éclairé ou intelligent, si vous voulez. On peut aussi dire les choses en français courant. On n'a pas l'air plus bête. Bon, je referme cette parenthèse. Donc, le renouvellement démocratique, les gens disent quoi? Ils disent l'homme fort, c'est fini. Ça avait atteint 49% d'opinion favorable il y a 3-4 ans, et on faisait des gammes sur ce sujet. C'est tombé à 37% dans cette enquête. L'idée d'un pouvoir vertical, un peu autoritaire, est complètement passée de mode, et je pense que c'est plus profond qu'une mode. Que disent les enquêtés? Ils disent qu'ils veulent plus de consultations, plus de proximité, pas forcément sur un plateau de télé, je rejoins Aurélie, il y a loin de Périclès à Cyril Hanouna, mais ils veulent plus de proximité. Ils trouvent que les politiques sont trop abstraits, trop loin, qu'ils n'écoutent pas leurs électeurs. Et quand on creuse encore un peu plus cette enquête, on s'aperçoit que le fond de l'air n'est pas si brun. Vous avez des choses étonnantes dans cette enquête. Par exemple, on propose aux gens des affirmations, on leur dit est-ce que vous adhérez ou pas. On leur dit l'immigration est un facteur d'enrichissement culturel. Plus 6 points. 53% des enquêtés nous disent oui, c'est un facteur d'enrichissement culturel. On les interroge sur faut-il abroger le mariage pour tous? 23%, moins 6 ou 7 points. Donc le fond de l'air n'est pas à la fermeture culturelle. Ce ne sont pas les questions prioritaires du moment. Et donc, en fait, ce qui ressort fortement, c'est une demande de démocratie, mais pas par les voies légales de la représentation. Quand on demande aux gens quels sont les meilleurs moyens de changer les décisions publiques, le vote est toujours en haut, mais il baisse fortement. Et la manif, elle vient juste derrière et elle monte fortement de 14 points. Et je crois que ce qu'on peut conclure très rapidement de cette rapide lecture, et j'invite les auditeurs à aller voir de plus près les différents items et ne pas se laisser dicter l'interprétation par quelques résumés trop rapides. Ce qu'on peut conclure, c'est ce que moi j'appelais il y a quelques mois la fin de la pacification démocratique, au nom d'une demande de démocratie. D'une demande de démocratie qui n'est pas simplement de la démocratie représentative telle que nous l'avons pratiquée, mais aussi une demande de démocratie représentative, tempérée par plus de participation, plus de démocratie directe. Évidemment, il y a un fort enthousiasme pour les consultations référendaires. Et cette fin de la pacification démocratique, c'est aussi la fin d'une époque, celle qui, en gros, s'est installée au milieu des années 70 et qui s'est terminée au milieu des années 2000 avec la grande crise. C'est une époque dans laquelle les gens avaient le sentiment que le système n'était pas parfait, mais qu'il pouvait produire du progrès, qu'il pouvait produire des avantages pour le grand nombre. Et aujourd'hui, ils sont sortis de cette idée. Et si on sort de cette idée, la philosophie sociale qui se dessine est une philosophie sociale d'affrontement, de conflit. Il faut vite la devancer et réformer nos institutions, réformer notre manière de faire démocratie plutôt que société ou nation. C'est vraiment le sujet du jour, c'est faire démocratie.
Merci pour cette lecture minutieuse, Thierry Pêche, Sylvie Kaufmann, face à cette attente d'un renouvellement démocratique. Il y a donc ce qui sera la réponse de l'exécutif ces prochains jours, la lettre du président de la République, le débat qui va s'enclencher avec ces kits qui seraient prêts, nous dit-on, en mairie, justement pour répondre à cette demande de participation. Et en même temps, déjà, notamment le vice-président de cette association des maires de France qui dit que les maires ne vont pas tous forcément nécessairement se sentir associés. C'est lui qui parle, il ne représente pas nécessairement tous les maires. C'est un énorme pari pour l'exécutif. Est-ce que la réponse à ce pari, est-ce qu'on l'aura ces prochains jours ?
Je ne sais pas, mais je pense qu'on peut déjà trouver quelques éléments dans cette enquête que Thierry vient de nous décrire, cette enquête du Cevipof sur des éléments pour que ce débat puisse peut-être réussir. C'est-à-dire que quand on regarde à qui les gens font confiance, on voit qu'il y a quand même un fort niveau de confiance interpersonnel, c'est-à-dire ils font confiance à leurs proches. Et qu'est-ce qui est le plus proche d'eux ? C'est leur maire parmi ces élus. Et on voit bien dans la défiance politique, cette fois-ci, ceux qui sont le plus bas, en qui les gens ont le moins de confiance, c'est le député européen et juste avant lui le président de la République. Mais les premiers, ce sont les maires, les élus locaux. Et il y a une très forte dynamique dans cette enquête d'opinion, on voit parmi les Français, entre proximité et éloignement. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de solutions à l'échelle locale, près d'eux.
Chez moi. Hein,
à la fois auprès de leurs proches, de leurs amis, de leur famille et de des élus locaux. Donc, je crois que si ce débat doit être organisé, il doit en effet être fondé sur cette échelle locale. Alors, les maires ont énormément d'appréhension, on les comprend. Ils ont un sentiment assez justifié d'avoir été ignorés et négligés jusqu'ici par ce pouvoir exécutif. Et maintenant, on leur dit, maintenant, ça va très mal, donc occupez-vous de trouver des solutions. C'est pas tout à fait ça. Il y a des maires qui sont intéressés, qui disent qu'ils pensent que c'est, ils peuvent en effet apporter quelque chose en participant aux organisations de ce débat. Et puis, il y en a qui ont
certains
peur.
Disent, on fera le minimum, on laissera juste une salle à disposition.
Oui, on peut comprendre tout à fait leur réticence, mais je pense que si ça doit se passer, c'est là que ça doit commencer. C'est au niveau de la démocratie locale. On est dans un moment de grande panne de débat et d'expression démocratique, comme c'est ce que vous avez dit au début de cette émission avec que vous avez décrit avec Aurélie. Et il faut en sortir. C'est Bruno Frappa dans La Croix cette semaine qui disait. Quand on est devenu fou, il y a un moment où il faut redevenir sage. On n'a pas encore trouvé d'autres issues politiques. Alors, je ne sais pas quelle est l'influence de Bruno Frappa, pour, malgré tout le respect que j'ai pour lui, sur les Gilets jaunes. Mais c'est vrai que là, on arrive à une étape dans ce mouvement où la colère a été entendue. Est-ce qu'elle a été comprise ? Je n'en suis pas sûre, mais en tout cas, elle a été entendue. Le mouvement des Gilets jaunes s'est installé dans le paysage politique. Il a imposé sa dynamique. Il reste actif, il reste fort. On l'a vu avec cette mobilisation cette semaine. En même temps, l'opinion publique commence à bouger un petit peu. Elle baisse un peu, tout en restant assez en soutien.
Le dernier sondage, voilà, vous citez, l'AB, dit, ou 78% des Français qui condamnent les violences des manifestations, mais ils sont quand même près de 40% encore à déclarer les comprendre.
Voilà, donc il y a un mouvement, mais un mouvement de l'opinion et en même temps un mouvement de Gilets jaunes qui reste installé dans le paysage. Donc je crois que là, le moment est venu de passer à autre chose, à essayer de structurer, de canaliser cette colère, d'en faire quelque chose, de déboucher sur quelque chose de concret. Et ce débat est probablement le moyen d'y parvenir si tout le monde s'y met. Je ne vois pas d'autres propositions. C'est ça aussi, c'est que D'aucun horizon politique, d'aucun intellectuel, je ne vois venir de propositions qui puissent remplacer ce débat. Voilà. Et ça, c'est une autre chose qui m'a frappée dans ces deux derniers mois, c'est le silence. On en a déjà parlé, mais le silence des politiques, le silence des intellectuels. Je crois que le moment est venu maintenant, en particulier pour les intellectuels, de prendre position, de profiter de cette, peut-être de cette accalmie très relative, mais très relative. Mais de...
Relative, 30 000 personnes en plus par rapport à la semaine précédente.
Oui,
dans
je
les
parle
rues.
D'accalmie parce que la violence a un petit peu baissé. En même temps, on a une espèce de gueule de bois maintenant de cette débauche de violence verbale, physique, à un niveau qu'on n'avait pas connu jusqu'ici en France. Enfin bon, les médias, on voit bien ce qui s'est passé, les politiques, les menaces, le niveau de menaces qu'ont reçu les députés de la majorité, c'est quand même sans précédent. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces députés sont dans leur immense majorité issus de la société civile. Ce ne sont pas des professionnels de la politique.
Et aussi voilà. D'ailleurs les médias et les journalistes qui sont à la fois très bas dans l'indice de confiance et qui ont été pris à partie violemment ces derniers jours. Vous déploriez, Sylvie Kaufmann, le silence à la fois des responsables politiques, de l'opposition et des intellectuels. On a pu entendre malgré tout cette analyse du philosophe Marc Répond cette semaine, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la violence dans le champ politique. Et sociale, et qui expliquait cette semaine au fond que nous avons tous pris goût à cette outrance du spectacle permanent et que d'une certaine manière nous contribuons à l'entretenir par notre présence sur les réseaux sociaux. Nous avons presque nous-mêmes intégré, Aurélie Filippetti, le fait que pour faire le buzz, le discours de la raison ne fonctionne plus.
Oui, bien sûr, il y a un livre qui va sortir de Christian Salmon qui avait écrit Storytelling qui s'appelle L'ère du clash, qui va sortir là dans les jours qui viennent, et où il montre justement que aujourd'hui, nous sommes effectivement tous presque drogués, intoxiqués à cette mise en scène du conflit permanent, qui n'est même plus le besoin de raconter ou d'entendre des histoires, ce qui était le storytelling, qui est le besoin d'avoir au fond de faux affrontements, parce que ce sont pas des affrontements idéologiques, des affrontements d'analyse structurée, c'est vraiment du spectacle pour le spectacle. Et donc, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Sylvie Kaufmann sur le silence des intellectuels. Les intellectuels font leur travail, mais eux, leur travail en profondeur et qui prend du temps, etc., n'est pas fait pour être spectacularisé. Et donc, pour eux, c'est extrêmement difficile, alors que moi, j'ai l'impression quand même qu'ils cherchent à se faire entendre. Ils font des tribunes, ils publient des livres, ils s'expriment dans le débat public autant que faire se peut, c'est-à-dire autant qu'on leur laisse la place de le faire. Mais quand on voit que, par exemple, sur les chaînes d'information, le débat, en tout cas la mise en scène du débat, est accaparé par toujours les mêmes pseudo-éditorialistes dont les analyses ne reposent sur rien, si ce n'est leur propre petit point de vue et leur propre idéologie, au fond, c'est-à-dire ce qu'ils pensent à travers eux-mêmes, hein, comme disent le philosophe, je trouve que finalement, on devrait quand même tirer un coup de chapeau aux intellectuels qui continuent à faire leur travail malgré tout, en essayant de faire entendre une voix différente, et un peu plus structurée, et en tout cas qui repose sur un vrai travail d'analyse des faits, des données de la société, et un travail de terrain.
Alors nous avons sur ce plateau, dans ce studio, quelqu'un qui prétend être à la fois un intellectuel et un responsable politique, François-Xavier Bellamy. Plus sérieusement, comment est-ce que l'on sort de ce face-à-face qui maintenant devient hebdomadaire entre les gilets jaunes d'un côté et les forces de l'ordre de l'autre? Est-ce que ce débat dont parlait tout à l'heure Sylvie Kaufmann, avec un certain optimisme, avec l'idée qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus le choix et qu'il n'y a pas eu d'autres propositions pour en sortir, est-ce qu'il est l'issue possible ces prochains jours?
Alors d'abord, je ne prétends à rien du tout, simplement à partager avec vous nos regards respectifs, mais ce débat effectivement est sans doute une voie de sortie. Il est pourtant j'ai trois inquiétudes très rapides sur ce débat. La première, c'est qu'effectivement on charge les maires de porter peut-être la patate chaude, et c'est vrai que les maires sont inquiets. François de Mazières, avec qui j'ai travaillé depuis 10 ans à Versailles, qui est le maire de notre ville, a publié une tribune justement en essayant aussi de prendre cette distance dans le Figaro pour montrer à quel point le danger était de transférer sur les collectivités locales cette espèce de d'excès de revendications, parfois très corporatistes, qui s'expriment à travers ce mouvement. Et c'est vrai que les maires n'ont pas envie d'être piégés par ça, eux qui sont déjà pris en étau entre la baisse des dotations et puis le fait qu'il faut maintenir un niveau de service public de proximité. La deuxième source d'inquiétude, c'est qu'au fond, on ne sait pas tellement ce qui va aboutir, et débattre pour débattre, ça ne sert pas à grand-chose. C'est Philippe Muret qui avait écrit un texte remarquable sur la fascination pour le débat, la passion du débat qui fait que le réel dont il est débattu s'efface petit à petit à la mesure même du débat qu'on entretient sur lui. Et finalement, si ça tourne en rond pour devenir un jeu de langage, on n'aura pas gagné grand-chose. C'est aussi, je crois, ce qui peut-être a fait reculer Chantal Jouanneau, au-delà de la polémique sur son salaire, disait-elle, c'est le fait que personne ne sait exactement quelle sera la prise en compte concrète des résultats de ce débat. Et un débat qui est organisé seulement pour débattre n'a pas beaucoup de signification.
Alors là, il est beaucoup dit et répété par l'exécutif, et ce sera certainement redit dans la lettre du président de la République qui sera publiée demain, que précisément, ensuite, les décisions seront prises en collant réellement à ce qui aura été exprimé dans ce débat.
En tout cas, on attend d'en savoir plus là-dessus, parce que jusque-là, le gouvernement a aussi beaucoup dit que rien ne changerait, que le cap serait maintenu, auquel cas, le débat n'a pas beaucoup de sens. Et la troisième chose, c'est, je me permets de revenir brièvement sur ce que Thierry disait tout à l'heure, c'est qu'au fond, le débat, me semble-t-il, ne peut pas s'engager si les termes dans lesquels on le commence sont déjà déterminés.
C'est-à-dire...
Et Thierry, vous avez dit, pardonnez-moi, mais ça m'a vraiment profondément choqué, vous avez dit, le fond de l'air n'est pas si brun que ça. Et pour le montrer, vous avez pris deux exemples, l'adhésion à l'immigration et l'adhésion au mariage pour tous. Je suis désolé, on peut très bien être en désaccord sur ces questions sans être traité de fasciste, parce que brun, c'est ça que ça veut dire. On peut très bien penser que l'immigration n'est pas nécessairement seulement un enrichissement culturel, mais aussi un problème, y compris d'ailleurs pour les migrants qui sont engagés dans des filières de passeurs par le rêve d'un Eldorado que nous ne pouvons pas leur promettre. On peut très bien penser que la question de la famille est une question décisive, y compris pour la stabilité de la société. On peut être en désaccord sur ces questions, mais on a le droit d'être en désaccord sans se faire traiter immédiatement d'être une chemise brune. Et c'est, je crois, très dangereux, vous voyez, au fond, je le dis avec l'amitié qu'on partage autour de cette table, mais c'est très dangereux de rentrer dans de tels sujets en déterminant que, par principe, il y a des positions qui sont acceptables et d'autres qui sont moralement inacceptables.
Parce que c'est peut-être pas ça du tout mon c'est point. Peut-être
Mais pardon, mais brun, c'est
oui,
être
bien
moralement
bien sûr,
inacceptable.
Je peux m'en expliquer très rapidement.
Et c'est peut-être ça qui crée, du coup, la virulence des gilets jaunes qui s'expriment en dehors des institutions parce que ce qu'ils ont à dire a été souvent écarté du champ de la conversation civique légitime. Non, mais,
Thierry Pêche, pour
vous répondre. Refermons immédiatement ce malentendu. J'ai traité personne de fasciste, c'était pas mon intention. C'était du discours indirect libre. Vous qui avez fait de la rhétorique, vous allez me comprendre. Je faisais allusion aux interprétations
bien
en
sûr,
vogue
mais...
sur le fait qu'il y a une droitisation radicale de la société française qui tend... Le fond de l'air est brun, c'était la réponse au fond de l'air est rouge de 68. Enfin, ne faites pas semblant de ne pas avoir compris.
Je ne fais pas semblant du tout, c'est quand même très important.
Alors, vous n'aviez pas compris. Et donc, je précise, je ne traitais personne de fasciste, ça n'est pas dans mes habitudes et je ne vais pas commencer la réduction à Hitlerum à 50 ans passés. Donc, ce n'est pas le sujet. Essayons de redevenir un peu sérieux. Je voudrais reprendre deux points sur les intellectuels. Les intellectuels, en général, ça n'existe pas. On mélange sous ce mot les moralistes acrimonieux spécialistes du discours général le samedi matin, par exemple, et puis des gens qui font des sciences sociales, de l'analyse précise, voire de l'entomologie. Les sciences sociales ont beaucoup pris la parole. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dirais même qu'elles ont nourri la façon dont on a compris ce mouvement, qui reste en grande partie d'ailleurs à comprendre. Et donc elles ont joué leur rôle. Je ne pense pas qu'il y ait un silence des intellectuels au sens sciences sociales. Il y a peut-être un silence des intellectuels au sens donneur de leçons de morale. Mais moi, il ne me manque pas en ce moment, je vous assure.
Il ne me manque pas. Alors Sylvie, puisque...
Je clôt le banc pour moi. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y avait une double demande en 2017. C'est ce que je disais, je crois, déjà la semaine dernière. Il y avait une demande de réforme, certes, mais il y avait une demande qui était beaucoup plus forte encore, de changement de la politique, de changement de la vie démocratique. Cette demande a été esquivée. Et c'est ça le fond du problème. Quand on se demande ce que c'est qu'un bon représentant, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est à la fois meilleur que nous et comme nous. Il est dans cette ambiguïté. On attend de lui qu'il nous ressemble et qu'en même temps il soit le meilleur d'entre nous pour gouverner les affaires de la cité. Les gens qui ont pris le pouvoir en 2017 ont pensé qu'ils pouvaient se contenter d'être les meilleurs d'entre nous. Ils doivent aussi être des comme nous. Ils doivent aussi entendre les autres, les écouter, les consulter, aller à leur rencontre. C'est ça la demande profonde du moment.
Et c'était d'ailleurs l'une des grandes promesses de,
Et c'était l'une des grandes promesses
du macronisme.
C'est ce que vous rappeliez à l'instant.
Sylvie Coffin, très rapidement pour répondre pour à ce que, sur ce
silence des intellectuels.
Oui.
Sur lequel Thierry Page était en désaccord avec vous.
Je parle des intellectuels, là, de ceux qui ont une sorte de responsabilité morale. Je ne parlais pas de leur travail scientifique. Bien sûr qu'ils continuent leur travail scientifique et qu'il est difficile dans les conditions actuelles. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de temps en temps des voix quand on est en période de crise. Il y a des voix en France et dans chaque pays démocratique qu'on a envie d'entendre sur le rappel de certaines valeurs. Il y a 3 ans, on est pratiquement jour pour jour au 3e anniversaire du 11 janvier 2015. On était 4 millions dans les rues. Hein, on n'était pas 84 000 ou 200 000, on était 4 millions. Et là, il y avait des gens qui ont su rappeler autour des attaques contre des journalistes, contre des policiers, contre des juifs. Il y avait des responsables politiques et intellectuels en France et moraux qui ont su faire entendre leur voix de manière extrêmement forte pour rassembler le pays autour de ces valeurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire, surtout quand je parle du rôle des intellectuels.
Vous pensez, en fait, à la manière dont ils font leur travail. Notamment à certains ténors de l'opposition. Vous faites référence à ce qui a pu se passer il y a 4 ans, en l'occurrence en janvier 2015 dans les rues de Paris.
C'était
cette capacité de toute une classe politique à se fédérer, à se regrouper.
Oui, des représentants intellectuels, moraux, politiques de la nation et de la manière dont ils savent, dont ils doivent d'ailleurs, dont on attend d'eux en temps de crise, qu'ils rappellent ces valeurs. Et là, en ce moment, devant cette violence qui est devenue une sorte d'instrument politique, je pense qu'on ne les a pas assez entendus.
Notre conclusion sur cette première partie, Aurélie Filippetti, puis on s'intéressera à l'Italie.
Je repensais au fond à la campagne d'Emmanuel Macron en écoutant Thierry Pêche tout à l'heure. Il a fait une campagne en disant on va aller au porte-à-porte, comme s'il inventait le porte-à-porte. Bon, on va aller au porte-à-porte, on va écouter les gens et on va faire remonter ce que nous disent les gens pour faire notre programme. C'est pourquoi ce qu'il a fait pendant sa campagne. Il n'est incapable de le faire aujourd'hui lorsqu'il est président.
Alors c'est ce qu'il dit vouloir refaire avec ce débat.
Oui, mais sauf que entre-temps, il a été élu et il aurait dû respecter cet engagement moral, politique, tout simplement, de méthode. Or, il a voulu tout d'un coup prendre une figure qu'on a appelée jupitérienne, qui n'est absolument pas ce, finalement, pourquoi il avait été élu et ce que les Français, au fond, réclament. Les Français réclament qu'on arrête de les considérer comme des enfants. Ils veulent être des sujets politiques de plein droit, qui donc participent au débat.
Merci. On va maintenant s'intéresser à la fois à Marine Le Pen et à Matteo Salvini. Marine Le Pen qui tient ce dimanche la grande convention du Rassemblement National pour présenter les 12 têtes de liste par région pour les européennes. C'est à la Mutualité avec Jordan Bardella qui prononcera son premier discours de tête de liste du Rassemblement National pour ces européennes. Marine Le Pen qui caracole en tête des responsables politiques qui inspirent le plus confiance, toujours dans ce fameux baromètre Cevipof que nous analysions tout à l'heure. Tandis que le grand modèle de Marine Le Pen, Matteo Salvini, multiplie lui en ce moment les déplacements en Europe, cette semaine en Pologne, pour être le porte-drapeau d'une Europe des peuples et des nations qu'il appelle de ses voeux.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
On parlait ces dernières semaines d'une stratégie mezza voce de Marine Le Pen qui dosait ses interventions depuis le début de la crise des Gilets jaunes, appuyant le mouvement de protestation mais gardant une prudente distance avec lui pour ne pas tomber dans le piège de la récupération tout en engrangeant naturellement les bénéfices de la période. Marine Le Pen habilement avait donc laissé à Laurent Wauquiez comme à Nicolas Dupont-Aignan le soin d'enfiler un gilet jaune, ses proches expliquant même doctement que la période, je cite, n'était pas au coup des esbroufs. La fille de Jean-Marie Le Pen se contentant d'appeler à la dissolution de l'Assemblée, contestant le mode de scrutin et donc la représentativité, mais sans demander la démission du chef de l'État. Matteo Salvini, lui, n'avait pas besoin de prendre ce type de précaution. Le ministre italien avait clairement soutenu le mouvement français des Gilets jaunes et réclamé le départ d'Emmanuel Macron, ce qui était sans précédent sur un plan diplomatique et qui avait fait dire au journaliste Alain Duhamel « Si cela s'était passé à l'époque du général de Gaulle, celui-ci aurait interdit à tous ses ministres d'aller siéger à Bruxelles tant qu'il n'aurait pas reçu des excuses ».
autre temps, autre mœurs. Matteo Salvini qui avait aussi rêvé cette semaine d'un nouveau printemps européen, tandis qu'il s'affichait mercredi à Varsovie avec les dirigeants du parti Droit et Justice au pouvoir, après avoir rencontré Viktor Orban en août dernier. Un axe Rome-Varsovie qu'il rêvait de voir remplacer l'axe Paris-Berlin.
L'Europe s'est habituée pendant des années à parler de l'axe franco-allemand. Nous nous préparons à avoir un nouvel équilibre et une nouvelle énergie en Europe. La Pologne et l'Italie seront les protagonistes de ce nouveau printemps européen, de cette renaissance des vraies valeurs européennes, avec moins de finances, moins de bureaucratie et plus de travail, plus de famille et surtout plus de sécurité. J'apporte tout le soutien possible aux Français qui, de façon bien élevée et respectueuse, disent à leur président qu'ils ne pensent pas à l'intérêt du peuple français, que plus vite il rentre chez lui, et mieux c'est. Mais tout épisode de violence est à condamner sans condition.
Matteo Salvini et son tour d'Europe cette semaine à Sivik Hofmann, au moment où Marine Le Pen, je le disais, réunit ce dimanche ses troupes à la Mutualité. D'abord, un mot avec vous sur ce parallélisme France-Italie qu'on entend beaucoup. On cite toujours Marc Ferro qui explique qu'en politique, ce qui se passe en Italie est toujours, préfigure toujours ce qui se passe ensuite avec un peu de décalage en France. Lorsque l'on ne cesse de filer la métaphore en expliquant que Matteo Renzi, c'est Macron, que Salvini, c'est Le Pen, que la Lega, c'est le Rassemblement National, que les 5 étoiles, c'est France Insoumise. Est-ce qu'on se trompe ?
Oui, il faut toujours se garder des comparaisons trop rapides. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé cette semaine avec entre le mouvement 5 étoiles et les Gilets jaunes est très intéressant, parce qu'il y a eu cette main tendue de Luigi Di Maio, donc le chef de file de... et vice-premier ministre italien, chef de file du mouvement 5 étoiles, aux Gilets jaunes, auxquels il a tendu la main et proposé, surtout, il a offert
aide numérique.
Une aide, voilà, de participer, enfin, de les faire profiter de cette plateforme numérique qui s'appelle Rousseau, du nom de notre philosophe, et qui est quelque chose de très, très important dans le mouvement 5 étoiles, parce que c'est cette plateforme numérique qui est d'ailleurs... un objet étrange parce qu'il est contrôlé par une entreprise privée, enfin bon, qui finalement tient le noyau de ce mouvement par cette plateforme et qui échappe pratiquement à tout contrôle démocratique. Enfin, ça, c'est un autre aspect. Mais donc, Di Maio propose aux Gilets jaunes d'utiliser cette plateforme numérique pour se structurer et pour se livrer eux-mêmes de manière plus cohérente et rationnelle à la démocratie directe à l'intérieur de ce mouvement. Dans un premier temps, Éric Drouet, très enthousiaste, répond oui.
Éric Drouet figure des
Gilets jaunes. C'est très intéressant et n'exclut pas, dit oui, tout à fait, c'est tout à fait envisageable que j'aille à Rome les rencontrer. Et puis le soir même, je crois que c'était lundi la semaine dernière, le soir même, il a une réunion sur Facebook avec plein de Gilets jaunes qui le contestent, qui disent attention, on n'est pas là. Enfin, il y a plein d'arguments qui sont avancés, notamment aussi attention à Salvini, à l'association avec Salvini, on n'en veut pas. Et finalement, de manière assez, je dois dire presque démocratique, Éric Drouet poste sur Facebook un refus et dit non, finalement, merci Monsieur Di Maio, mais nous sommes nés seuls, nous resterons seuls, nous ne voulons pas de mouvement politique étranger, nous n'avons pas besoin d'aide et nous restons là. Donc, l'initiative de 5 étoiles pour se rapprocher des Gilets jaunes fait un flop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que les Gilets jaunes ne ressemblent pas aux 5 étoiles. Il y a plein de choses qui sont communes dans leurs racines et dans l'éruption de ces mouvements, mais ça veut dire qu'on est encore, je crois, dans un moment de recherche de toute cette de coopération au sein de tous ces mouvements qui sont quand même très disparates. Et alors on a bien vu dans cette démarche de Salvini en Pologne, alors Matteo Salvini, lui, chef de la Liga, parti d'extrême droite, ce qui n'est pas l'étiquette qu'on peut mettre à 5 étoiles, lui a l'ambition depuis longtemps, hein, d'être le leader des droites nationalistes et populistes européennes. Il veut être le champion de la Ligue des Ligues en Europe, si on peut dire. il y arrive avec Marine Le Pen. C'est beaucoup plus. On a vu là, franchement, l'accueil qu'il a eu en Pologne était assez mitigé. On n'a pas vu les Polonais sauter de joie, ni exprimer publiquement une adhésion à ce que leur proposait Salvini. Et ce qu'on voit en réalité, bien sûr, tous ces mouvements qui sont maintenant importants en Europe, parce que presque chaque pays membre de l'Union européenne, d'une manière ou d'une autre, compte ces mouvements dans son paysage politique. J'ai compté à peu près 7 pays au moins importants. Où ces mouvements soit sont au pouvoir, soit participent ou soutiennent les pouvoirs en place. Donc ce sont des acteurs importants. Ils essayent de profiter de cette dynamique pour créer une force à l'échelle européenne, évidemment à l'approche du scrutin des élections au Parlement européen du 26 mai. Mais c'est très difficile parce que leurs intérêts sont très disparates. Ce sont des mouvements nationalistes. Donc chacun défend bien entendu les intérêts de son propre pays. Donc par rapport au regroupement qu'on a connu dans le vieux monde entre les partis sociaux-démocrates de chaque pays ou les partis chrétiens-démocrates de chaque pays, leurs intérêts sont beaucoup plus divergents. Donc on n'y est pas encore. Franchement, je pense qu'au niveau des appareils de partis, on est loin d'être encore dans une vraie coopération ou des alliances formelles. En revanche, dans la dynamique de la base, je dirais populaire, là, on voit quelque chose qui se forme en effet à l'échelle européenne.
Thierry Pech, à la fois sur ce parallélisme souvent établi entre ce qui s'est passé en Italie et qui pourrait préfigurer ce qui est en train de se passer en France, et en effet sur cette tentative de populisme global, comme vous l'avez appelé dans votre édito du Monde cette semaine, Sylvie Kaufmann, qui serait à l'œuvre avec comme chef de file ou comme porte-drapeau un Matteo Salvini.
Sur le parallélisme, c'est tentant, évidemment, puisque on voit... une symétrie des phénomènes très avancée en Italie, beaucoup moins en France, qui consiste simplement dans la montée de partis, souvent de partis personnels, c'est-à-dire pilotés par le charisme d'une personne, radicaux, positionnés aux extrêmes, et écrasant toutes les forces qui sont entre elles. Et c'est un peu ce qui est en train de se dessiner en France. La même semaine, on voit Juppé rejoindre En Marche et Mariani rejoindre le Rassemblement National. Donc l'espace des partis traditionnels entre les forces radicales se rétrécit. Le parti central, La République En Marche en France, le parti démocrate de Renzi en Italie, après un moment de forte popularité, s'effondre tout à coup. Donc on est tenté de dire ça se ressemble aussi. Bon. Après, il y a aussi beaucoup de différences. Beaucoup. Et notamment le fait que la comparaison 5 étoiles Gilets jaunes ou même 5 étoiles France Insoumise s'arrête sur au moins deux points. Le premier, c'est que pour que la France Insoumise ou les Gilets jaunes deviennent 5 étoiles, il faudrait que Coluche existe d'une certaine façon. C'est BP Grillo.
Il faudrait un BP Grillo.
Ben oui, c'est BP Grillo 5 étoiles au départ. Sans BP Grillo, il n'y a pas 5 étoiles. C'est-à-dire sans un leader qui amuse, bouscule,
Jean-Luc etc. Mélenchon ne peut pas être Beppe Grillo.
Je crois qu'il a encore beaucoup de travail pour le faire. Oui, beaucoup. Et je pense que sa culture trotskiste d'origine risque d'être une barrière au sens de l'humour qu'il faut pour devenir Beppe Grillo. Mais bon, c'est un point dont on pourrait discuter, on pourrait même spéculer là-dessus. Le deuxième point, c'est que le 5 étoiles a clairement fait un choix sur la question migratoire, qui était centrale au moment où ils sont montés en puissance. 5 étoiles, c'est un mouvement de gauche, hostile à la migration. Je parle sous le contrôle des gens qui savent, je ne suis pas un spécialiste de l'Italie, mais il me semble que ce déplacement-là, il a été majeur. Pour le moment, la France insoumise n'a pas fait ce déplacement-là. On voit bien que c'est une tentation, mais il n'est pas explicite, il n'est pas assumé, il y a quelque chose là qui ne s'est pas produit. Et donc, la coïncidence des opposés, pour parler comme Nicolas de Cuse, elle est difficile en France, parce que cette barrière-là n'est pas tombée. Et le serait-elle que probablement d'autres sujets empêcheraient qu'une éventuelle coalition rouge, et je n'ose pas dire brun pour ne pas choquer mon camarade de droite, il est assis à ma droite, je veux dire, c'est ça que je...
Faites bien de le préciser.
Voilà. Donc, alors, sur le deuxième point, rapidement, est-ce qu'une internationale des nationalismes est possible? C'est un oxymore, voire une contradiction dans les termes, une internationale des nationalismes. Ça n'a jamais fonctionné, parce que les intérêts sont concurrents, et que au lieu de coopérer, ces gens divergeront, ils ne sauront coopérer que pour détruire. Et c'est d'ailleurs leur seul agenda à Strasbourg ou à Bruxelles.
François-Xavier Bellamy, puisque vous êtes à la droite de Thierry Pech, et parce qu'évidemment on a aussi envie de vous entendre cette semaine, on lit les journaux comme tout le monde et on voit que vous continuez ce chemin qui pourrait vous mener vers la tête de liste des européennes pour les Républicains. Aujourd'hui, les eurosceptiques veulent gagner la bataille des idées, d'où cette tentative de fédération que mène Matteo Salvini. Est-ce que là, cela fait partie de vos motivations à participer à cette bataille des européennes qui s'annonce ?
Une motivation profonde, je sais pas du tout ce qu'il en sera, et de fait, d'abord la question ne dépend pas que de moi, et elle dépend aussi de la proposition qui peut-être me sera faite pour que je sache si justement cette motivation peut se réaliser. Pour moi, la motivation fondamentale, c'est de tenter d'échapper en Europe, mais aussi et d'abord en France, à l'étau qui semble se resserrer de ce que Thierry décrivait tout à l'heure comme une sorte de philosophie de l'affrontement. Et pour le coup, je redoute beaucoup que ce miracle de 25 siècles qui est justement la conversation démocratique se résolve dans une forme d'opposition caricaturale, de stratégie du clash perpétuel, de tout ce qu'on a évoqué jusque-là. Ça suppose d'éviter le populisme, ou plutôt la démagogie d'où qu'ils viennent. Et il peut y avoir, de ce point de vue-là, dans cette philosophie de l'affrontement, un tort très important des mouvements populistes qu'on évoque jusque-là, qui se construisent souvent et se structurent autour d'un ressentiment, beaucoup plus qu'autour d'une vision et d'un projet. Et c'est sans doute ça le point commun, d'ailleurs, de tout ce qu'on est en train d'évoquer. Mais ça suppose aussi d'éviter, et c'était le sens de mon intervention de tout à l'heure, et pardon si elle était un peu vive, ça suppose d'éviter que cette stratégie de l'affrontement ne soit aussi portée par ceux qui se reconnaissent comme étant les mouvements centraux ou comme étant les élites dirigeantes actuelles. Et de fait, je crois que le scénario qui était installé par Emmanuel Macron tout au long de la dernière année, aujourd'hui, il le met moins en scène, mais c'était en tous les cas celui auquel il nous avait habitués, le scénario d'un conflit qui se réduirait désormais à n'être que l'opposition des progressistes aux populistes, l'opposition précisément du centre aux extrémités, ce scénario-là est terrifiant parce qu'en fait, il signe une forme d'abdication de la démocratie. La démocratie suppose de proposer aux électeurs plusieurs options légitimes, intellectuellement rationnelles, qui se tiennent et qui par conséquent peuvent être préférées les unes aux autres, mais qui permettent un choix libre. Et si au fond il ne s'agit que d'un affrontement, que ce soit l'affrontement du haut contre le bas, plutôt que celui de la gauche contre la droite, ou bien l'affrontement des gens raisonnables contre les démagogues, eh bien, nous y aurons tous perdus. Et je crois que c'est l'un des grands enjeux des élections européennes.
Si vous y alliez dans cette bataille, François-Xavier Bellamy, vous seriez soumis à un choix très clair, car en effet, lorsque l'on fait des projections, il est assez aisé de voir qu'il n'y aurait pas un seul grand parti d'extrême droite qui deviendrait le parti, le grand gagnant de ces européennes. En revanche, la possibilité, l'hypothèse à laquelle pense sans doute d'ailleurs un Matteo Salvini, c'est par exemple que la Lega participe ou rejoigne le parti du PPE, c'est-à-dire de la droite européenne. Vous seriez soumis à ce choix-là si vous alliez dans cette bataille, à savoir que faites-vous de ces partis-là ?
Je ne crois pas que ce soit la stratégie de Matteo Salvini aujourd'hui. D'ailleurs, il a entretenu des liens très clairs avec Marine Le Pen, il a fait tribune commune avec
elle. S'il ne parvenait pas, ce qu'a l'air de dire Sylvie Kaufmann, à créer ce grand parti européen d'extrême droite. Cela pourrait être une hypothèse, c'est-à-dire gagner la bataille des idées et rejoindre ce qui était jusque-là la droite européenne, j'ouvre des guillemets, classique.
Non, je pense que son souhait, c'est de la remplacer. Son souhait, c'est d'asphyxier le PPE bien plus que de l'intégrer. C'est d'ailleurs l'une des difficultés. En fait, nous regardons depuis la France, et c'est normal, hein, nous regardons ces différents phénomènes avec le sentiment qu'ils sont très convergents, alors qu'en réalité, entre un Viktor Orban et un Matteo Salvini, il y a des différences massives qui sont aujourd'hui des différences typiquement d'inscription dans le champ politique européen, par exemple. Ce qui fait que, sans doute, on l'a bien vu d'ailleurs à l'occasion des sanctions qui ont été votées contre Viktor Orban, et que Kurz a voté. Le parti de Kurz, le chancelier autrichien, a voté pour ces sanctions.
Qu'auriez-vous fait, vous, si vous aviez déjà été élu ?
Mon sentiment est que, précisément, ce protocole de sanctions avait quelque chose qui ne pouvait que susciter une forme de crispation supplémentaire dans les oppositions. Je me serais abstenu à titre personnel parce que je ne crois pas du tout. De la même manière que je suis profondément scandalisé de l'expression d'un Salvini disant « il faut que Macron rentre chez lui », je suis tout autant inquiet de voir que l'Union européenne s'illustre lorsqu'elle vote des sanctions contre un gouvernement démocratique dans l'un de ses États membres. On peut être en désaccord avec Viktor Orban, bien sûr, ça n'autorise pas pour autant les institutions européennes et le Parlement européen à se prononcer de cette manière-là, et je crois qu'on serait tous choqués si aujourd'hui le Parlement européen décidait de voter des sanctions contre la France, par exemple.
Vous n'êtes pas choqué si ce gouvernement enfreint l'État de droit et réduit l'indépendance du pouvoir judiciaire?
Bien sûr, mais c'est le propre des Hongrois que de devoir entretenir le débat politique dans leur pays. De la même manière que j'aurais été très choqué si le Parlement européen avait voté. Ben, on se souvient d'inquiétudes sur l'état de droit au moment du gouvernement précédent, lorsque il avait été question, cette proposition a été retoquée par le Conseil constitutionnel, de supprimer un verrou démocratique à l'intérieur de la justice.
On peut pas mettre sur le même plan, le gouvernement Viktor Orban, le gouvernement polonais, avec des mesures qui avaient été prises dans le cadre de l'état d'urgence, que par ailleurs, je rappelle personnellement, dont je n'ai pas voté le renouvellement. C'est vraiment pas comparable. Là, on a un gouvernement qui enfreint, au fond, les principes de base de la construction de l'Union européenne, c'est-à-dire les principes fondamentaux des droits de l'homme et de la démocratie. Enfin, on n'est plus dans le cadre de régimes républicains qui respectent la séparation des pouvoirs, par exemple, et les libertés individuelles. Et c'est pour ça que l'Europe prend des sanctions, et que c'est pour ça que, évidemment, on est aujourd'hui dans une forme d'aporie, parce que notre construction européenne s'est faite après la guerre sur un certain nombre de valeurs et de principes que l'on a tous considérés comme indispensables à la vie démocratique et au bien-être des citoyens. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu, à mon sens, une captation par une petite technocratie, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que l'Europe est devenue un terrain de conquête pour les pires nationalistes, les pires populistes, les pires démagogues, qui, au fond, ont bien compris qu'avec les dysfonctionnements profonds des institutions européennes, eh bien, ils pouvaient aller au sein du Parlement, trouver des tribunes, se réunir sans que jamais, au fond, eh bien, l'Europe puisse réagir d'une manière ferme contre eux.
Une bataille sur les valeurs. Vous voulez peut-être dire un mot, d'ailleurs, Sylvie Kaufmann, du discours de Donald Tusk cette semaine
à Bucarest, oui, pour l'ouverture de la présidence roumaine. En effet, le président du Conseil européen, donc le Polonais Donald Tusk, a fait un discours en roumain, rappelant les valeurs démocratiques, et le faisant en Roumanie, où il y a maintenant un risque de dérapage, et même des signes assez clairs de dérapage démocratique du même type que ceux qu'on a vus en Hongrie. Et juste une chose que je voudrais rappeler, qui montre aussi la difficulté d'organiser toute cette entre guillemets internationale nationaliste, c'est que les Polonais, il y a par exemple une chose chez Salvini qui les gêne, le parti Droit et Justice qui est au pouvoir en Pologne, et qui est donc un parti très nationaliste et très conservateur, c'est les liens de Salvini avec Marine Le Pen. Donc, et par ailleurs, et la politique, et aussi la politique russe de Salvini, et sa proximité très, très ouvert.
Avec
Vladimir Poutine.
Et parce qu'il y a évidemment une tradition historique polonaise de ne pas aller chercher les alliances
Polonais,
de ce côté-là.
Pour eux, tout ça, c'est vraiment quelque chose de sacrilège. Donc, on voit bien qu'il y a quand même énormément, comme ça a été souligné, énormément de choses qui séparent tous ces mouvements et beaucoup de divergences. Donc, je pense qu'au-delà d'accords tactiques ou de positions tactiques, ça sera très, très difficile pour eux vraiment de s'unir.
Alors, François-Xavier Bellamy, qui vous les répondre, je crois, Aurélie Filippetti et puis Thierry Pech ensuite pour conclure.
Non, juste en une phrase, pour conclure sur ce débat, il faudrait beaucoup plus de temps pour parler de la question des sanctions en tant que telles. C'est un dossier très complexe, et d'ailleurs la répartition des votes à l'occasion de ces sanctions a été l'occasion de vérifier qu'il était complexe, y compris pour les familles politiques traditionnelles. De fait, je crois que ce qui compte, c'est de remédier à ces dysfonctionnements de l'Union européenne qu'on évoquait à l'instant. Mais dans cette crispation anti-européenne qui monte, il me semble qu'il y a une certaine pratique ou une certaine réponse qui entretient paradoxalement la crispation qu'elle voudrait faire baisser. Et c'est tout le péril. On revient finalement à quelque chose qui a traversé notre conversation tout au long de cette matinée, qui est le fait de ne pas transformer trop vite un désaccord politique en occasion de condamnation morale. Et de fait, je crois que vous étiez par exemple opposé à la reconduction de l'état d'urgence. Il aurait été tout à fait différent que le Parlement européen se prononce par des sanctions contre l'état d'urgence au motif qu'il posait des problèmes démocratiques. Il en posait peut-être, mais c'est un débat démocratique. Et le grand danger aujourd'hui, c'est que l'Union européenne apparaisse comme étant précisément une forme d'entorse structurelle aux démocraties locales et à l'expression démocratique des peuples. Et c'est en tous les cas une préoccupation qu'on doit avoir à l'esprit si on veut pouvoir la changer pour pouvoir la sauver.
Thierry Pêche.
Deux points. Un petit retour sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le mouvement 5 étoiles. J'ai pu laisser penser que c'était un mouvement de gauche. Il ne s'assume pas comme tel, hein, je voudrais le préciser. Mais sa proposition de revenu citoyen et beaucoup d'autres points le classent plutôt de ce côté-là, même si il n'est pas perçu comme ça. Enfin, c'est un objet politique un peu compliqué à analyser. Deuxième point, et c'est le principal, la question de l'heure au niveau européen, c'est qu'avons-nous en commun ? Que mettons-nous en commun pour avancer ensemble ? Et est-ce que l'état de droit, le respect de l'indépendance de la justice, le respect du pluralisme démocratique, je pourrais continuer, est-ce que tout ça, ça fait partie de notre patrimoine commun, sans quoi nous ne pourrions plus faire chemin ensemble ? C'est ça la question qui est posée à travers... François-Xavier, en critiquant la procédure de sanction, vous attaquez à la lime à ongles un problème qui est beaucoup plus profond que ça. Derrière, la question n'est pas la légitimité de la procédure de sanction, la question c'est celle que je pose. Et on ne peut pas y répondre, je crois, en disant je m'abstiens parce que j'aime pas la procédure. La question profonde c'est celle-là. Et c'est une question qui peut faire éclater le PPE. Le Parti Populaire Européen, évidemment. Et c'est ça la tentation de ceux qui voudraient une opposition progressiste nationaliste au niveau européen. C'est de faire éclater le PPE comme ils ont fait éclater la social-démocratie pour pouvoir accueillir de nouveaux amis qui sont, je dirais, les modérantistes des conservateurs et expulser ceux qui ne sont plus dans le patrimoine commun de la démocratie libérale. Bon, c'est une question sérieuse. Je ne souhaite pas personnellement, la réduction du paysage politique à un affrontement binaire progressiste-nationaliste, mais je ne souhaite pas non plus la culture des ambiguïtés qui finira malheureusement par donner raison à ceux qui parlent de pente brune.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Thierry Pêche, on garde quelques secondes pour des conseils de lecture. Sylvie Kaufmann, cette semaine.
Oui, alors puisque nous avons beaucoup parlé de populisme, il y a un livre qui vient d'être publié par les éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès de notre ami Gilles Finkelstein. Brève introduction au populisme par les sociologues Cass Moudeux et Cristobal Kaltwasser. Et il est intéressant parce qu'il donne des définitions du populisme pour ceux qui ont du mal à appréhender ce concept qui est souvent utilisé péjorativement, mais qui repose sur des vraies notions politiques.
Oui, de l'importance des sciences sociales et politiques dont on parlait tout à l'heure. Aurélie Filippetti.
Alors moi, c'est un livre qui va sortir la semaine prochaine, mais comme je ne serai pas la semaine prochaine, donc je l'ai cité, c'est le livre de Christian Salmon, L'ère du clash chez Fayard.
Merci beaucoup. François-Xavier Bellamy.
Aux belles lettres, la réédition d'un très beau livre de Alan Bloom, un universitaire américain qui s'appelle L'âme désarmée et qui parle de la nécessité d'une culture commune pour pouvoir entretenir justement cette conversation civique.
Merci Thierry Pêche.
Alors moi, un livre très court qui s'appelle L'invention de Nitard de Cerchellini aux éditions de Minuit. Pour tous ceux qui s'intéressent avec pas mal de fantasmes à la naissance des nations dans la profonde nuit médiévale, ils rencontreront le chemin d'un chroniqueur contemporain de Charlemagne qui a écrit en français pour la première fois dans les Sermons de Strasbourg.
Merci Thierry Pêche, François-Xavier Lamy, Aurélie Filippetti, Sylvie Kaufmann d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission. Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Ne manquez pas lundi, la journée spéciale France Culture ouvre le débat à la veille du lancement du grand débat national. Et puis ce dimanche, 12h45, Marc Weitzman reçoit justement le philosophe Marc Crépon dont nous parlions tout à l'heure pour parler art et terrorisme avec le romancier Boris Leroy et le plasticien Édouard Roland. Et tout de suite, bien sûr, c'est le moment d'aller savourer les bonnes choses de Caroline Brouet. Bon dimanche, à la semaine prochaine.